Eh bien, c'est maintenant le moment de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la méditation de ce que Dieu nous enseigne, ce qu'il nous dit pour notre bien, pour notre salut, pour que nous vivions. Nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, nous sommes déjà dans le ciel. Nous sommes assis avec le Seigneur Jésus dans les lieux célestes. Quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, je ne veux pas dire virtuellement, je le dis tout de même, mais sans le dire. Virtuellement, si vous voulez, le mot n'est pas très exact. Nous montions avec lui, c'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été ressuscités déjà avec lui. Et ça, c'est une pensée qui est très forte dans l'enseignement de l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens. C'est-à-dire que, véritablement, d'abord, nous étions dans le dessein de Dieu. Vous savez, l'Épître aux Éphésiens aime nous apprendre que le dessein de Dieu avait été pour nous formé avant la fondation de ce monde. Et quand le moment de l'accomplissement est arrivé, je veux dire accomplissement du sacrifice, de la rédemption, et ensuite de l'ascension, de la glorification, eh bien, dans le dessein de Dieu, nous étions emmenés. Nous étions emmenés. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, mais je ne veux pas m'arrêter sur ce texte, ce n'est pas mon sujet cet après-midi, simplement pour vous montrer cela. En somme, si nous ne sommes pas encore tout entiers dans le ciel, avec le Seigneur Jésus, maintenant, c'est parce que Dieu a jugé bon, et nous comprenons les hautes raisons qu'il avait, de nous maintenir un temps sur cette terre, pour notre bien, pour notre affermissement, pour que nous devenions inébranlables, avec évidemment la grâce de Dieu, et puis aussi pour que nous rendions témoignage et pour que nous amenions des âmes, nous enfantions des âmes au salut. Et lorsque la terre aura été secouée, terriblement secouée par les jugements proprement dits, les fléaux dont parle l'Apocalypse, les sept coupes, ces fléaux qui demanderont 42 mois, alors viendra la fin, véritablement la fin, et le Seigneur Jésus reviendra, descendra. Et on peut dire que tous les éléments nécessaires à nous faire entendre que ce retour est un retour corporel sont présents dans la révélation de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler tellement. Le Seigneur Jésus descendra, disaient les anges aux apôtres, de la même manière que vous l'avez vu montant dans le ciel. Il redescendra. Et ce que je voudrais surtout maintenant, c'est appeler votre attention sur un sujet qui s'encadre dans ce grand programme du retour du Seigneur Jésus, de la fin du temps de la grâce et du règne du Seigneur sur cette terre. Nous allons lire dans Romains 8. Romains 8, un texte que vous avez certainement remarqué et au sujet duquel vous avez pu peut-être vous interroger. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupirent et souffrent les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Nous avons là un texte assez, nous pourrons dire énigmatique, assez énigmatique, mais tout de même assez transparent. La création soupire. Et nous apprenons ici que il y aura pour les enfants de Dieu, et qui sont appelés aussi les fils de Dieu, cela un peu avant aussi notre lecture, au verset, dans le chapitre 8 toujours, au verset 14, à la fin du verset 14, l'apôtre employait l'expression « fils de Dieu » et au verset 16, il employait celle d'enfant de Dieu. Fils de Dieu, enfant de Dieu, cela désigne les élus, c'est-à-dire tous ceux qui, entrant dans le dessein de Dieu, ont été rachetés de la terre, rachetés par, sur la base du sacrifice du Seigneur Jésus. Et je pense que cela nous fait du bien d'apprendre que sur cette terre, tous les ravages du péché seront effacés, et que sur cette terre, il faut que se montre un triomphe de Dieu. Si la terre devait être abandonnée, détruite aussitôt après cette économie, c'est-à-dire aussitôt après les jugements, et que l'éternité s'ouvre sur la nouvelle terre, annoncée aussi par le livre de l'Apocalypse, alors cette terre aurait été définitivement celle d'une défaite. Or, il faut qu'elle soit celle du triomphe de Dieu. Dieu ne peut jamais être placé dans une situation de défaite. Il faut que la victoire sur le péché, sur le mal, sur la destruction se manifeste sur cette terre même. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va y régner pendant 1000 ans. C'est un règne transitoire. Il est vrai, comme tout à l'heure notre frère y faisait allusion, que les gens de certaines sectes se sont saisis de ce règne annoncé sur la terre pour y voir une sorte de prolongation de la vie actuelle à travers certains amendements, certaines transformations, et tout cela est faux, bien entendu, mais il faut que nous considérions les choses telles que la révélation nous les annonce. Il y a, par exemple, une secte, disons, qui s'appelle le monde à venir sur les ondes, et qui s'appelle, en littérature, la pure vérité. Et ce que je reproche beaucoup à cette forme d'un christianisme qui n'est pas malheureusement bien établi sur ses bases, c'est que on fait en quelque sorte abstraction des jugements de la terre et que l'on présente le monde à venir, c'est-à-dire le règne du Seigneur Jésus, comme en quelque sorte une suite donnée à ce temps à travers certaines améliorations, et surtout parce que le Seigneur Jésus viendra régner sur cette terre. Il viendra, mais après les jugements, et lui-même, lorsqu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, le trône de David à Jérusalem, les nations comparaîtront devant lui, c'est-à-dire tous ceux qui resteront des nations comparaîtront devant lui. Mais notre propos ce soir, c'est surtout de nous intéresser à ce que nous dit l'apôtre Paul ici dans le passage que nous avons lu. La création a été soumise à la vanité. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Révélation des fils de Dieu, il est facile de comprendre ce que c'est que cela, et pour cela se reporter à Colossiens chapitre 3, verset 1, Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire si vous marchez selon l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes vraiment de ceux qui, ayant été crucifiés dans la chair, sont ressuscités, vivants, vivent de la vie de résurrection du Seigneur. Voilà ce que le Paul veut dire. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Dans un sens, mais oui, vous êtes morts. Vous êtes morts quant à la chair. Vous êtes morts quant au mode de vie ancien. Et votre vie telle qu'elle est maintenant, votre vie nouvelle, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, notre vie, c'est Christ, voyez. Et l'apôtre le dit dans les Philippiens d'ailleurs, pour moi, la vie, c'est Christ. C'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ, votre vie, paraîtra, nous savons quand il paraîtra, et c'est au moment où le Seigneur Jésus paraîtra, c'est-à-dire alors que cette guerre d'Armageddon, dont vous avez vu le lieu hier soir dans les projections, cette vallée de Jizréel, eh bien lorsque, alors le Seigneur, la guerre d'Armageddon sévira, là, dans ce lieu, une partie de cette guerre d'ailleurs aura gagné Jérusalem, les nations s'efforceront de prendre Jérusalem, la moitié de la ville sera prise, alors le Seigneur paraîtra. Il descendra sur le mont des Oliviers et ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Ça c'est précis, c'est le prophète Zacharie qui nous l'annonce. Savez-vous d'ailleurs ce qui se produira à ce moment-là? Le Seigneur descendra dans sa gloire. L'apôtre Paul nous parle d'une flamme de feu. Cela nous fait penser à Dieu se manifestant sur le Sinaï, n'est-ce pas, alors que la montagne était en feu. Il viendra donc et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers se fendra. On a déjà dit qu'une certaine faille était amorcée là. Bon, peut-être bien, je veux bien, c'est une personne qui était géologue et qui est allée là-bas et qui a fait cette révélation. Bon, c'est bien possible, en tout cas je sais qu'elle se fendra, n'est-ce pas ? Et elle se fendra en travers, une partie remontera vers le nord et une partie descendra vers le sud, et le Seigneur Jésus sera là. Une vallée s'ouvrira. À ce moment-là, la guerre est en pleine ardeur, là, à Jérusalem, la moitié de la ville est prise, il y a déjà des Juifs qui sont captifs, et voici qu'un chemin, donc, se fait et va jusqu'au centre de Jérusalem. Alors là, ceux qui sont encore libres d'Israël se précipitent dans cette vallée pour s'enfuir, vous vous enfuirez, et ils passeront en somme aux pieds du Seigneur Jésus. Dans cette faille de la montagne, ils passeront au pied du Seigneur Jésus. Et ce sera, voyez-vous là, une délivrance et une forme de délivrance que Dieu a prévue et qui est, si vous voulez, un peu analogue à celle que le peuple d'Israël avait connue en Égypte, à ce moment-là, en quittant l'Égypte, dans le Sinaï. Le massif d'Horeb, là c'était la mer rouge qui s'était fendue, n'est-ce pas ? C'était la mer rouge et dans cette tranchée opérée à travers la mer par la puissance de Dieu, alors le peuple s'était engagé et avait été délivré. Eh bien là, à la fin des temps, ce sera une délivrance à travers la montagne, c'est la montagne qui s'ouvre, non plus la mer mais la montagne. Alors, ce n'est plus Moïse qui conduit le peuple, qui vient prendre la direction du peuple, mais c'est le berger que Dieu a promis par Ézéchiel au peuple d'Israël, le berger, et le berger, c'est notre Seigneur à nous, chrétiens, à nous, notre Seigneur, c'est lui qui va faire ces choses. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est bouleversant, et il nous est difficile, je le comprends bien, et j'y ai moi-même consacré pas mal de réflexions. Parce que c'est assez notre Seigneur, n'est-ce pas? Actuellement, pour nous, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, nous le connaissons comme le Seigneur l'Esprit, nous l'aimons. Et puis, nous sommes, nous, n'est-ce pas, évidemment, informés, instruits, dans le cadre de cette nouvelle alliance. Ça nous fait un peu drôle de savoir que notre Maître va se trouver là, alors, physiquement présent, sur cette montagne des Oliviers, faisant passer, délivrant, comme Moïse autrefois, délivrant le peuple d'Israël. Eh bien, cette délivrance est nécessaire. Elle est une forme que Dieu a prévue et qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël qui restera va entrer dans ce règne. Et vous savez qu'il est dit que le Seigneur Jésus règnera sur la maison de Jacob, c'est dans le Nouveau Testament, cela c'est dans l'évangile de Luc, il règnera, il s'assiera sur le trône de David son père, il règnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin, car les mille ans ne mettent pas fin au règne du Seigneur. Alors il faut que ce peuple d'Israël, ce reste d'Israël, lui, sache que, en fin de compte, c'est son Messie qui le délivre, parce que sans quoi, actuellement, il compte sur la force de ses armes, sur son habileté. Elle est grande, elle est extraordinaire, disons-le, n'est-ce pas? Elle est extraordinaire, ça c'est vrai, n'est-ce pas? Vraiment, ce peuple, ce petit peuple, se défend là, dans son petit pays. Il y a quelque chose comme 3 millions simplement de juifs. Bah, c'est vraiment extraordinaire. Mais Dieu veut que ce peuple, entrant dans le règne, sache que c'est de son Dieu qu'il tient le salut et la délivrance. D'ailleurs, ce peuple aura été, peu de temps auparavant, au chapitre 12 de Zacharie, c'est annoncé, il aura reconnu, par un esprit de grâce et de supplication, celui qu'il avait percé. Celui qu'il avait percé autrefois, il le reconnaît. Et alors, il y aura un temps de deuil qui suivra cela. Un grand deuil dans la maison de David. Un grand deuil. Un grand deuil. Celui qu'ils avaient percé, c'était vraiment leur Messie. Ah, chose extraordinaire. Chose qui va les remuer, les faire pleurer. Ils verseront des pleurs. Ils seront donc, à ce moment-là, déjà dans la reconnaissance au Seigneur Jésus, et ils verront que leur Messie est intervenu pour les délivrer, que ce n'était pas par leurs propres mains qu'ils le pouvaient, mais par l'intervention de Dieu. Et alors, que va-t-il se passer ensuite? Il va se passer ceci, c'est que le Seigneur Jésus, après avoir jugé, comme je vous l'ai rappelé, Matthieu 25, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et là, les nations comparaîtront devant lui. On ne peut pas ouvrir le règne autrement que par un jugement. Il faut donc un jugement. Les hommes seront rares sur la terre, très rares, rares comme l'or d'Ophir, précise le prophète Ésaïe. Il se passera ceci, c'est qu'après avoir jugé, le Seigneur Jésus va opérer une grande œuvre. Une œuvre magnifique, extraordinaire. Il ne faut pas que nous l'ignorions, cette œuvre-là. Elle est dans l'Écriture. Là, nous l'avons lue, si vous voulez, en termes un peu couverts, je veux bien, dans le chapitre 8 des Romains. Mais si nous allions à l'Évangile de Matthieu au chapitre 19, et au verset... chapitre 19 de Matthieu, versets 27 et 28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, et c'est le trône de David à Jérusalem, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Juger veut dire, comme dans le temps des juges, veut dire gouverner. Les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quitter veut dire ici, n'est-ce pas ce qu'a fait notre cher frère à Monsieur Richard, il a bien fallu qu'il quitte son cinéma. Il l'a peut-être retrouvé après, mais pour une autre utilisation et dans d'autres conditions. Quitter veut dire ici, n'est-ce pas, se rendre libre. Ah, si vous voulez absolument, n'est-ce pas, garder votre maison, garder votre profession, s'il avait voulu lui garder son cinéma avant et ses films, n'est-ce pas, eh bien, le Seigneur l'aurait laissé. Alors, quitter veut dire se rendre libre, se rendre disponible pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, ne comprenait pas cela, veut absolument trancher tout lien légitime entre un mari et une femme, ou un père, une mère et les enfants, n'est-ce pas? Mais il faut se rendre disponible, priorité à Dieu. Il faut avoir dans le cœur cette priorité absolue, priorité au Seigneur. Voilà ce qui est enseigné. Mais, j'ai lu ce texte. Pour vous dire ceci, c'est qu'au verset 28, le Seigneur Jésus parle du renouvellement de toutes choses. Le renouvellement de toutes choses, et ce renouvellement, dans le texte grec, l'évangile de Matthieu a été écrit en araméen, c'est le seul d'ailleurs qui ait été écrit dans cette langue, mais très vite, très tôt, il a été écrit aussi en grec, et le texte inspiré est un texte grec. Et le renouvellement de toutes choses, en grec, c'est palingénésia, qui est formé de deux mots, palingénésia, nouvel engendrement. Un nouvel engendrement. Ce nouvel engendrement, l'apôtre Pierre nous en parle aussi. Il nous en parle dans Actes. Le livre des Actes, au livre des Actes, au chapitre 3, et chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'était là la belle prédication de Pierre adressée au peuple. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie sur cette terre celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Le rétablissement de toutes choses. C'est encore là ce nouvel engendrement qui va être opéré par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc un acte extraordinaire, un acte qui utilise la puissance créatrice. De cet acte, Ésaïe nous parle en plusieurs passages. Il nous dit « Je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera » et il ne parle pas là de la terre de l'Apocalypse, il parle de cette terre par le pouvoir créateur, le Seigneur qui a cela dans sa mission, Ésaïe le précise aussi, le Messie est chargé en effet de créer sur cette terre une nouvelle terre, c'est-à-dire de redonner à cette terre la beauté qu'elle avait lorsqu'elle a été créée, lorsqu'elle a été disposée, préparée pour le séjour de l'homme. La palingénésia, le nouvel engendrement. Et c'est cette terre qui était magnifique, elle était magnifique, nous n'avons pas idée de ce qu'elle pouvait être. C'est cette terre qui, comme nous le dit l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu de Romains 8, c'est cette terre Cette création, il l'appelle la création parce qu'il envisage tout, non seulement le globe lui-même, la planète, mais tout ce qu'elle porte, la vie qu'elle porte. Tout ce que Dieu avait créé était bon, était très bon, dit la Genèse, cela est très bon. C'est-à-dire, c'était propre à répondre au dessein de Dieu, au bonheur de l'homme qui était, en somme, le roi de cette création. Il n'y avait aucun élément de destruction, de souffrance, pas de gémissement, tout était parfait, cela est très bon, c'était très bon. Et puis, elle a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la désagrégation, à la dégénérescence, à la mort, par celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire l'homme, avec sa chute, avec son choix, et puis cela a entraîné la malédiction de Dieu, n'est-ce pas ? L'homme n'a fait ce mauvais choix, il a bien entraîné la création dans cette destruction, et Dieu, lui, a sanctionné, si vous voulez cela, par une malédiction. Il faut comprendre que la création se trouve dans une harmonie avec l'homme, dans une solidarité avec l'homme. Il y avait entre l'homme et Dieu une harmonie, un rapport, une relation. L'homme était créé pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y avait une relation. Cette relation est rompue. De même, la relation entre la création et Dieu a été rompue aussi parce qu'il y a, je vous dis, solidarité entre la création, tous les êtres vivants que porte la terre elle-même, les arbres, non seulement les arbres, mais même les fleuves, les montagnes. Ne nous est-il pas dit dans les psaumes que les arbres battent des mains, n'est-ce pas, quand la joie de la justice de Dieu fait son apparition, les montagnes, les fleuves, tout le monde, tout se réjouit. Vous me direz, ce n'est pas possible. Mais il faut bien penser que c'est cette création qui comprend une matière inanimée en même temps que des êtres vivants, les plantes, les animaux, il faut bien comprendre que tout cela n'est plus placé dans le plan de la création, et que par conséquent, il y a une contrainte, une souffrance. Vous me direz, mais les montagnes n'en sont pas conscientes, les arbres pas davantage, les animaux non plus, je vous l'accorde. Mais l'apôtre Paul, ici, prête une sorte de conscience, et l'Écriture le fait, de conscience. Il y a, cependant, dans la création, surtout dans les êtres vivants, il y a une lutte. Il y a une gêne, il y a quelque chose, n'est-ce pas, une entrave qui empêche cette création, et surtout les êtres vivants de cette création, d'arriver à la plénitude de leur existence, c'est-à-dire à la pleine réalisation du plan de Dieu. Ils sont en dessous, ils ne peuvent pas arriver, il y a contrainte, il y a lutte, il y a gêne. C'est cela que l'apôtre Paul nous décrit ici. En somme, la création porte dans son sein un désaccord, des luttes. Et il faut dire que les êtres vivants, eux aussi, ont été atteints par la mort. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et la création aussi a été touchée par la mort. En somme, partout règne l'assujettissement, le dur labeur, la souffrance, la dégénération et la mort. Et cela parce que l'homme a désobéi à son Dieu. Ainsi, la vie qui est dans la création soupire. Elle soupire après quelque chose. Elle attend quelque chose. Elle désire quelque chose. Elle soupire après un rétablissement du plan parfait de Dieu. Et c'est cela, la palingénésie, palingénésia, le nouvel engendrement. Et alors, lorsque les fils de Dieu, les enfants de Dieu, fils ou enfants de Dieu, mais ici, Paul affecte particulièrement cette désignation de fils de Dieu, et l'on comprend pourquoi, il a raison. Alors, ces fils de Dieu, lorsqu'ils vont être manifestés, lorsqu'ils vont être manifestés dans la gloire, c'est-à-dire lorsqu'ils vont paraître, lorsque Christ paraîtra, ils vont paraître aussi, Vous savez que Christ, lorsqu'il redescendra sur cette terre, redescendra avec les anges de sa puissance, mais aussi avec tous les saints. Et les noces de l'agneau auront eu lieu dans le ciel. Ah, cette fois-ci, c'est bien dans le ciel, dans la cité de Dieu, que ces noces de l'agneau auront eu lieu. Et l'épouse redescendra. Et les Thessaloniciens nous en donnent une merveilleuse vision. Et le Seigneur Jésus sera admiré, non pas seulement dans sa personne. On pourrait, sa personne, certes, est un objet d'admiration largement suffisant, n'est-ce pas? Mais il sera admiré dans tous ceux qui lui feront cortège, et qui, par son sang, auront été lavés, qui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, auront été transformés à son image. Et c'est vous, mes amis, c'est nous, qui serons là. Voilà ce qui nous est destiné. Alors, là se produira cette palingénésie, cette transformation, ce nouvel engendrement. La terre reviendra comme elle était avant la chute. Et ce sera quelque chose de merveilleux. Quand on regarde aujourd'hui les arbres, quand on regarde les êtres vivants, on s'aperçoit qu'ils sont étreints par différentes maladies. Il y a des ravageurs de toutes sortes, des petits, des grands, qui sont là pour détruire, pour empêcher la vie. Alors, tout cela disparaîtra. La création, avons-nous dit, est liée avec l'homme, avec l'humanité, par une relation qui est mystérieuse, qui est intime, du fait qu'elle a été faite pour l'homme. Et alors, il est normal que quand l'homme paraîtra dans la gloire, la création, elle aussi, retrouve le plan premier de Dieu, et par cette palingénésie, par ce nouvel engendrement, reprenne sa beauté première. Mais au cours des jugements, au contraire, pendant les jugements, au cours des fléaux, que se produira-t-il? Eh bien, la Bible nous annonce qu'à ce moment-là, le soleil s'obscurcira, la lune se changera en sang à l'approche du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible, les étoiles tomberont sur la terre. Ce sont les derniers signes qui nous sont annoncés. Et pourquoi cela? Parce que là, c'est le moment des ténèbres. Le moment des ténèbres, la terre est livrée aux ténèbres, l'Esprit de Dieu s'est retiré, l'Église est partie, elle est livrée aux ténèbres. Alors, vous voyez, la création est au plus bas à ce moment-là. Mais lorsque le Seigneur sera revenu et que par son pouvoir créateur, il étendra de nouveaux cieux, il régénérera la terre, alors la création sera libérée de la servitude, de la corruption, elle aura part. Elle aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous avons dit que ce jour serait donc celui du retour sur la terre du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église se situant avant les jugements, bien entendu. Et ce sera là la solution de Dieu après le temps de sa patience. Et cette solution de Dieu, cette palingénésie, intéresse l'homme. Et son univers, la terre, la planète, avec tout ce qu'elle porte, c'est à cause des fils de Dieu que ce nouvel engendrement pourra affecter la création tout entière, c'est-à-dire la terre. Et le mot palingénésien est employé aussi dans l'épître de Tite. L'épître de Paul à Tite, au chapitre 3, et au verset 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Écartons cette hypothèse, nous dit l'apôtre. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, il n'y en a aucune qui soit à prendre en compte. Mais selon sa miséricorde, Tout dépend de la miséricorde de Dieu. Sachons bien que si nous sommes sauvés, c'est par la miséricorde de Dieu, et c'est à la miséricorde de Dieu que nous le devons. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est absolu, c'est l'intervention de la souveraineté de Dieu. Et, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et baptême de la régénération, dans le grec, c'est palingénésia. Par une palingénésia. Le mot, par conséquent, est employé pour l'homme pécheur, qui est transformé. Et cette palingénésia de l'homme, ce nouvel engendrement de l'homme, ce sera d'abord cette nouvelle naissance, dont nous parlons beaucoup, qui a été enseignée par Jésus dans le chapitre 3 de Jean. Mais elle aura été parfaite par la rédemption du corps, c'est-à-dire la résurrection du corps. Alors là, l'homme, dans son être tout entier, esprit, âme et corps, sera ressuscité, sera lui engendré de nouveau. Et c'est cet engendrement de nouveau qui commande l'engendrement de la terre. Mes amis, votre foi en Jésus-Christ qui vous procure la grâce du pardon des péchés, la grâce du salut, eh bien, votre approche de Jésus-Christ pour être sauvé, c'est cela qui commande le renouvellement de toute la terre. Voyez quelle puissance est attachée à l'homme et au changement de l'homme. Quelle puissance ! Palingénésia de l'homme pour une palingénésia de la planète tout entière. Voyez que c'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas ? C'est à cause des fils de Dieu. Les fils de Dieu, lorsqu'ils se paraîtront, qu'ils seront manifestés dans la gloire, leur palingénésie sera un fait éclatant, acquis. Alors il faut que la terre aussi retrouve, par une palingénésie, retrouve elle aussi son état premier, son état conforme au plan créateur de Dieu. Eh bien, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais ces choses, nous avons à les repasser dans notre cœur, à les connaître. Si la Bible nous parle, et nous parle davantage d'ailleurs, de ce règne de 1000 ans, car les prophètes ont été assez prolixes sur les circonstances de ce règne de 1000 ans, nous avons eu l'occasion de l'étudier, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans tous les prophètes sur ce règne de 1000 ans, le règne de Christ de 1000 ans sur la terre. Eh bien, si elle nous parle abondamment de cela, c'est parce que c'est plus concret, c'est plus près de nous maintenant, et nous pouvons comprendre que la puissance de Dieu va d'abord faire cela. La puissance de Dieu va d'abord faire cela, sur cette terre, la transformer, la ramener à l'état où elle était avant la chute, avant le péché. Et les hommes, eux, seront alors entrés, je veux parler de l'Église, dans leur état, disons, de fils de Dieu, c'est-à-dire dans l'état définitif. Ils seront prêts pour l'éternité, eux. Les hommes qui seront restés sur la terre, les Juifs notamment, qui vont d'ailleurs repeupler cette terre pendant les 1000 ans, eux seront encore dans le corps tiré de la poussière de la terre, ce qui ne sera pas le cas, évidemment, des ressuscités. Ils seront dans un corps nouveau, un corps semblable à celui du Seigneur Jésus. Alors, pour terminer, je voudrais vous indiquer qu'il y aura sur cette terre, selon les prophéties de la Bible, un terrible ébranlement, un incendie immense. Et puis alors paraîtra au milieu d'une guerre, en pleine guerre, sévissant là-bas, en Palestine, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, descendant, comme nous l'avons noté, au mont des Oliviers. Il restaure la terre, il est roi de toute la terre. Proclame Zacharie, Jérusalem est sa capitale, elle est rebâtie, et Jérémie, dans son chapitre 3, nous donne même le nouveau périmètre de cette Jérusalem de la terre, qu'il ne faut pas appeler la nouvelle Jérusalem, c'est pas elle. La Jérusalem de la terre, le psaume 47 évoque aussi cela, le chapitre 52 d'Ésaïe, L'œuvre du roi, nous est-il dit, ne sera que magnificence. Il est parlé de la splendeur glorieuse du règne, de la puissance qui s'emploiera uniquement au bien. Fini la connaissance du bien et du mal. Nous revenons, n'est-ce pas, à ce qu'était la volonté de Dieu. Il n'y a que le bien. On n'aura que le sens du bien. Sur cette terre, la magnificence, la gloire de Dieu éclatera, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs, tressaillira de joie avec chants d'allégresse et de triomphe. Les hommes chanteront la magnificence du Carmel et de Saron. Tout ça, ce sont des termes peut-être un peu évocateurs, bien sûr, du passé d'Israël, mais il n'empêche que tout cela nous montre que la terre sera magnificence. Et il est dit que la lumière du jour sera 7 fois plus grande que la lumière actuelle. La lumière du jour sera 7 fois plus grande et la terre sera donc baignée d'une lumière. Vous savez que d'ailleurs dans la gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste entièrement, il y a une manifestation physique qui est une manifestation de lumière. Eh bien, que toutes ces choses nous fassent comprendre que nous avons, nous, une espérance. Nous avons l'espérance d'être bientôt enlevé de la terre par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas, ce que l'Écriture a tracé, la révélation de Dieu a tracé nous concernant. L'enlèvement de la terre. Il y a non seulement des affirmations, mais il y a aussi des signes. Enoch a été enlevé de la terre, Élie aussi a été enlevé de la terre, Moïse, lui, a été enterré par Dieu, puis il a été ressuscité, il était là, sur la montagne de la Transfiguration, parlant avec le Seigneur Jésus, lui et Élie parlant avec Jésus. Tout cela nous montre que nous aussi, nous serons soit comme Élie, si nous ne sommes pas morts au moment où le Seigneur Jésus revient dans les airs pour prendre à lui ses élus, l'Église, soit comme Moïse, qui est passé par la mort du corps, mais qui a été ressuscité et qui lui aussi se trouvait aux côtés d'Élie, aux côtés de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Nous avons une grande espérance. Cette espérance, sa réalisation s'approche très vite de nous. Mes amis, je crois que le temps est court maintenant. Eh bien, chers amis, pensons à ces choses, soyons heureux, restons dans notre bonheur, c'est le moyen de ne pas fléchir. Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même, le Seigneur est pur. Celui qui a une espérance se purifie. Attachons-nous à notre espérance afin de nous purifier.